réponse ce soir, c'est abandonner nos positions spirituelles. Et pour introduire ce sujet, j'aimerais que l'on lise dans le premier chapitre donc, du livre de Ruth, chapitre 19 jusqu'au verset 22. C'est le retour de Naomi à Bethléem. Elle est accompagnée de Ruth. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans les jours prochains, dans les études prochaines. Mais j'aimerais qu'on s'arrête eh bien, sur l'attitude de cœur de Noémie et que véritablement, eh bien, puissions-nous réfléchir autour eh bien, de cette femme. Ruth, chapitre 1, verset 19, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 22. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et les femmes disaient « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi revint Noémie et avec elle sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Amen. Nous avons vu les jeudis précédents que durant les temps de famine, eh bien, Elimelec avait pris la décision de quitter Bethléem afin d'aller séjourner à Moab. Et lorsqu'on y réfléchit, cet homme, lorsqu'il a pris cette décision, il a finalement accepté d'abandonner toutes sortes de choses derrière lui. D'abandonner les choses matérielles, d'abandonner les amitiés, d'abandonner une histoire, d'abandonner ses racines pour finalement eh bien, aller dans un autre pays. Cette décision a été lourde de conséquences puisque nous le savons, nous qui sommes des lecteurs avertis de la parole de Dieu, lui va mourir ainsi que ses deux fils dans le pays de Moab. Et au-delà de ce départ, au-delà des choses matérielles qu'il va abandonner, on peut penser lorsqu'on voit Noémie revenir, eh bien, qu'il va abandonner des positions spirituelles. Et ces positions spirituelles, on les trouve au travers des différents noms qui sont mentionnés dans le livre de Ruth. Première position spirituelle qu'il va abandonner, eh bien, c'est la maison du pain, c'est la parole, puisqu'il va quitter Bethléem. Et pour nous, cet abandon de cette position spirituelle, eh bien, ça pourrait être finalement de ne plus méditer la parole de Dieu, de ne plus ouvrir la Bible, de ne plus se tenir devant le conseil de Dieu, de ne plus réfléchir eh bien, autour des Écritures. Et à partir du moment où j'abandonne cette première position spirituelle, à partir du moment où je ne lis plus ma Bible, où je ne réfléchis plus dessus, eh bien, je ne peux pas eh bien, tenir ferme, je ne peux pas tenir debout. N'oublions jamais les paroles de Jésus qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. N'oublions pas le conseil que l'Éternel va donner à Josué alors qu'il va prendre la succession de Moïse qui est mort et qu'il va avoir cette lourde charge de faire rentrer le peuple dans le pays de Canaan. Et l'Éternel va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. À partir du moment où je cesse ces positions spirituelles, où j'abandonne cette position de la parole, à partir du moment où je quitte la maison du pain, eh bien, ce qui se produit automatiquement, c'est que je vais aller d'échec en échec, puisque la parole de Dieu, la Bible dit que nous réussirons dans nos entreprises à condition eh bien, qu'elles soient conformes aux Écritures, à condition qu'elles soient conformes aux désirs de Dieu pour notre vie. Petite parenthèse, quitter Bethléem, n'est pas forcément quitter l'église. On peut être assis sur une chaise et ne plus être dans la maison du pain. On peut être fidèle à toutes les réunions et ne plus être dans la maison du pain. Je referme la parenthèse. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où non seulement on ne médite plus, mais à partir du moment où la parole de Dieu n'a plus autorité sur notre vie, où elle ne guide plus notre vie, eh bien, on descend d'une échelle et on ne se situe plus dans les hauteurs, mais on se situe à côté, on se situe en dehors du plan de Dieu. La seconde position spirituelle que Elimelec ou Naomi va abandonner, elle s'appelle Ephrata. Ephrata, c'est la fécondité. Ça signifie fécondité. Et c'est un terme qui est lié à Bethléem, notamment dans le livre de Michée, lorsqu'il est parlé de la petesse de Bethléem, il est parlé de Bethléem Ephrata. Et finalement, on s'aperçoit que les deux termes sont liés. À partir du moment où je suis dans la maison du pain, à partir du moment où je nourris mon âme, eh bien, je suis fécond, c'est-à-dire que je porte du fruit. À partir du moment où je veille sur mon âme, eh bien, je porte du fruit. Et la position spirituelle que l'on peut être tenté d'abandonner, c'est celle de se dire « je dois être utile à mon Dieu ». Je dois être utile à l'œuvre de Dieu. Je dois faire en sorte que, finalement, je porte du fruit parce que c'est la volonté de Dieu depuis le commencement. Lorsque Dieu va créer la terre, eh bien, il va la peupler avec toutes sortes d'animaux. Et Genèse chapitre 1, verset 22, il va dire « Dieu les bénit !» Comme il nous a bénis, comme nous bénissons les uns les autres. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Genèse chapitre 1, verset 28, là il s'adresse à l'homme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'ordre est donné aux hommes « Multipliez, soyez féconds. » Lorsqu'il va adresser cette promesse à Abraham, Genèse chapitre 17, verset 6, « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Et on s'aperçoit que dans la nature même, le principe de multiplication, le principe de fécondité est extrêmement vrai. Les plantes se reproduisent au travers de ce qu'elles peuvent semer par elles-mêmes. Bref, on sait que la nature elle-même se reproduit de manière naturelle. Et le principe d'un chrétien, c'est de porter du fruit. Quel est le texte qui vous vient à l'esprit? Le même que moi, je pense. Jean 15. Jean 15, chapitre 5, verset 8, 5 à 8. Je suis la vigne, c'est Jésus qui parle. Vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup du fruit. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attaché à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits. Et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Le principe de cette seconde position spirituelle, c'est quand je perds à l'esprit que je suis là pour porter du fruit, eh bien, finalement, je ne suis plus utile à l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce que dit ce texte? C'est que, eh bien, je serai retranché et que je serai foulé aux pieds. Ne perdons jamais de vue que si nous avons été sauvés, si nous avons été rachetés, c'est pour porter du fruit. Et que pour porter du fruit, nous devons être sur le cep. Dieu nous a donné des talents. On en a tous au moins un. Mettons-le en action. Capitalisons-le. Ne perdons jamais de vue que nous sommes là pour offrir nos corps, pour offrir nos vies comme des sacrifices vivants, sains et raisonnables. À partir du moment où je cesse de vivre dans cet état d'esprit, à partir du moment où je cesse de me dire « je ne suis finalement qu'un outil entre les mains du Seigneur, qu'un vecteur de bénédiction entre les mains du Seigneur », je quitte Ephrata et je quitte ainsi une position spirituelle qui est indispensable pour mon équilibre dans ma vie chrétienne. Troisième position qu'il va quitter, il va quitter Judas. Judas, ça signifie que Dieu soit loué. Et en quittant Bethléem, en quittant Judas, ils ont quitté le terrain de la louange. Et n'oublions jamais que pour entrer dans la présence de Dieu, eh bien, c'est au travers de la louange que nous le faisons. Le psaume 100 dit « J'entrerai dans les parvis de Dieu avec des louanges ». Et c'est dans cet état d'esprit que nous voulons pénétrer dans la présence de Dieu. Quand la louange n'est plus au centre de notre vie, quand nous ne sommes plus capables de louer Dieu, quand nous ne sommes plus capables de placer Dieu au centre de ce que nous sommes, qu'est-ce qui prend la place? Ce sont nos soucis. Et je le dis de temps en temps, mais je crois que c'est... Plus je fais des visites et plus j'avance dans le ministère pastoral, et plus je découvre, la prière est une arme extraordinaire. Mais mal utilisée, ça peut être une véritable catastrophe. Parce qu'elle peut servir de moulin à problème. On ne prie pas, on ressasse. On ne dépose pas aux pieds de Dieu, on ressasse. On ressasse. On tourne en boucle, ça fait un peu l'effet machine à laver, vous savez. Tandis que, au travers de la louange, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je place Dieu au-dessus de mes problèmes. Je réalise à nouveau, eh bien, qui est mon Dieu. Je réalise à nouveau qui, la puissance qu'il possède. Je réalise qu'il est omniscient. Je réalise qu'il est omnipotent. Et je le remets au-dessus. Tandis que lorsque je n'ai plus de vie de louange, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes problèmes sont au-dessus de Dieu. Et de ce fait, ma vie de foi tout entière se retrouve annihilée et se retrouve abattue. J'ai besoin de louer mon Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et nous pourrions multiplier les versets qui ont trait à la louange. Et nous le savons. Et lorsque je loue Dieu, ce n'est pas la louange pour la louange, mais c'est tout simplement, eh bien, mon âme qui est élevée et la personne de mon Dieu qui est élevée dans mon cœur, au-dessus de tout ce que je peux être. Que le Seigneur nous aide à le louer en priorité. Tu ne sais pas quoi demander à Dieu, eh bien loue-le. Loue-le. Et comme ça, eh bien ton âme sera restaurée et Dieu sera à la place qu'il doit avoir dans son cœur. C'est là que les chants ont une vocation toute particulière. C'est là que eh bien lire les psaumes est d'une grande utilité parce que là nous trouvons des paroles, nous trouvons des mots qui nous parlent, qui nous correspondent et au travers desquels nous pouvons louer et bénir notre Seigneur. Quatrième terme qui est utilisé, c'est Élimélec, c'est le nom même d'Élimélec, qui signifie l'Éternel est roi. C'est un nom difficile à porter, hein. Non pas parce qu'il ne convient plus trop à notre époque, mais sa signification, l'Éternel est roi. Surtout quand on regarde un petit peu dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, ce qu'un roi aura comme prérogative sur ses sujets, il possédera tout. Tout. L'Éternel est roi. Élimélec avait oublié que l'Éternel était roi. Il avait les mots, il n'avait pas les actes. Et la quatrième domaine spirituel, la quatrième position spirituelle que nous devons toujours conserver, Seigneur, est-ce que c'est toi qui diriges ma vie? Est-ce que c'est toi qui contrôles ma vie? Est-ce que c'est toi qui décides des combats que je dois mener? Est-ce que c'est toi qui décides des armes que je dois employer? Est-ce que c'est toi qui décides, eh bien, de ce que je dois dire, de ce que je dois faire? Est-ce que c'est toi qui contrôles les choses? Ou bien, est-ce que finalement tu es mon roi de temps en temps, de temps à autre? Seigneur, est-ce toi réellement qui décides? C'est toi qui pilote la voiture ou c'est moi? C'est toi qui choisis le trajet ou c'est moi? Le roi a toute autorité. Et parce que, eh bien, Élimélec avait quitté ses positions spirituelles, nous retrouvons une Noémie qui est brisée. Nous retrouvons une Noémie qui est cassée. Et nous entrons dans le vif du sujet après cette introduction. Nous allons voir un petit peu quel est l'état de cœur de Noémie. Et le principe de cette réflexion, c'est de se dire, est-ce que finalement, dans mon cœur, il n'y aurait pas des sentiments qui seraient semblables à celui de cette femme? Le premier sentiment que l'on trouve, on voit que Noémie parle et dit « Je suis dans une grande affliction. Je suis dans une grande affliction. » Quelle est la définition de l'affliction? C'est une peine profonde, un abattement à la suite d'un grave revers. Donc, on s'aperçoit que l'affliction n'est pas la conséquence de l'épreuve, mais que l'affliction est la conséquence de l'échec. Et Noémie, plutôt, et Élimélec, plutôt que d'accepter de vivre l'épreuve, ils ont préféré la fuir. Et de ce fait, ils se sont mis dans une position d'échec. Ils se sont mis dans une position de vaincu. Et la position de l'enfant de Dieu, ce n'est pas une position de vaincu. Mais nous sommes élevés avec Christ dans les lieux célestes. C'est au vainqueur que, eh bien, la couronne de vie est donnée. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à être vaincus par l'épreuve, mais nous sommes appelés à la traverser, nous sommes appelés à vaincre, nous sommes appelés à vivre même dans les difficultés et même finalement au sein de la tempête. Nous ne sommes pas appelés à fuir les choses. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que Noémie va revenir alors que le pain est revenu à Bethléem. Elle va rentrer dans la victoire d'autres. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Rentrer dans la victoire d'autres personnes? Ou avoir nos propres victoires? Mon frère, ma sœur, Dieu a des victoires pour toi. Mais pour remporter ces victoires, il ne faut jamais refuser les combats. Pour remporter ces victoires, il faut accepter parfois de prendre des coups. Parfois être accepté d'aller dans les cordes. Parfois accepter d'avoir quelques cocards, quelques bleus au cœur, quelques bleus dans notre couple, quelques bleus dans notre vie, afin d'en ressortir fort. Et afin d'en ressortir, non pas dans l'affliction, mais dans la joie et dans la victoire. Si l'épreuve produit la souffrance, l'échec produit l'affliction. Et nous serons vaincus en dehors des positions spirituelles que nous avons énoncées. À partir du moment où je quitte les positions spirituelles que j'ai énoncées en introduction, eh bien, je me mets automatiquement en position de vaincu. Je n'ai plus les armes pour tenir. Je n'ai plus la capacité pour tenir. Et donc, je vis en position d'échec. Et ce sentiment d'affliction est vrai pour les chrétiens. Vous savez, quand on sait qu'on avait un combat à mener et qu'on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Ben, la culpabilité vient. Et là, on commence à être rongé. On commence à être aminé. Et on vit dans l'affliction. Et quand on lit les paroles de Noémie, on s'aperçoit à quel point cette femme a été marquée par son échec. Et je pense qu'il y a un phénomène de proportionnalité. Plus nous avons reçu et plus nous perdrons si nous nous enfuyons. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions être de ceux, de celles qui, devant les combats, eh bien, ne déposons pas les gants et ne fuyons pas le ring, mais qu'au contraire, eh bien, nous puissions supporter de passer par le creuset en sachant que, eh bien, l'épreuve produira la patience et que nous en sortirons sanctifiés, que nous en sortirons vainqueurs, plutôt que de finalement revenir après avoir subi une forme de cycle infernal et de rentrer dans la victoire d'autres. Jésus a des victoires pour toi. Jésus a des victoires pour son Église. Jésus a des victoires pour chacun d'entre nous. Et le principe, c'est qu'il y a des combats que nous mènerons ensemble, mais il y en a d'autres que nous sommes les seuls à pouvoir mener. Avec la prière des uns des autres, avec le soutien de la communion fraternelle, avec l'aide de Dieu. Mais finalement, même si sur un ring, le soigneur est dans le coin, pendant un round, le boxeur est seul sur le ring. Que le Seigneur nous aide. Deuxième état de cœur, Naomi, il est dit que, au verset 5, que Malon et Kilion moururent aussi tous les deux, et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Elle voulait avoir et elle perdra. Elle sera privée. Privée d'un bonheur familial, privée d'un contentement, de satisfaction, privée d'affection des êtres aimés et privée de la présence de Dieu. Elle qui voulait finalement éviter de perdre, elle perdra au-delà de ce qu'elle aurait perdu si elle était restée à Bethléem. Tout simplement parce que Élimélec et Naomi ont fonctionné en dehors des règles du royaume de Dieu. Et la règle, l'une des règles qui est énoncée, c'est que il faut perdre pour gagner. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Si Jésus n'avait pas accepté de perdre la gloire éternelle en venant sur la terre des hommes, il n'aurait pas pu être le grain qui allait produire une mesure glorieuse pour des générations et des générations. Il faut accepter de donner pour recevoir. C'est biblique. Nous savons que si nous gardons pour nous et si en nous il n'y a aucun sacrifice, eh bien alors nous ne pourrons pas recevoir. C'est quelque chose qui est impossible. Je dois me vider pour recevoir. Et je dois donner à Yann pour recevoir de la part de Dieu. Yann doit donner à son épouse, même si ce n'est pas toujours facile, afin de recevoir de la part de Dieu. Et puis vice-versa, hein, d'ailleurs. Et on a vocation à offrir afin de recevoir. Dieu nous remplira si nous sommes vides, si nous donnons, mais si nous gardons pour nous, si nous oublions d'offrir, eh bien le vase que nous sommes ne sera rempli finalement que d'une huile qui date de Mathusalem et qui, comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, sera infectée par les mouches mortes. Il faut perdre pour gagner, il faut savoir se séparer pour gagner le royaume de Dieu. On connaît bien ce texte de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus dit qu'il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume de Dieu plutôt que de garder ses deux yeux et puis d'être jeté dans le feu de la géhenne. Il vaut mieux se couper la main. Alors ne le faites pas de grâce au sens physique du terme. Ce n'est pas là le propos de Jésus. Mais Jésus dit que parfois il faut être capable de se couper de certaines habitudes. Il faut être capable de se couper de certaines personnes. Il faut être capable de se couper d'une certaine mentalité, d'une certaine manière de voir, même de certains principes que l'on a pu nous enseigner, que l'on a pu nous éduquer, dans lesquels nous avons pu être éduqués, afin eh bien, que ces principes-là ne soient pas des freins pour notre vie spirituelle et qui ne nous privent pas à terme du royaume de Dieu. Si aujourd'hui ce n'est pas forcément un problème hein, pour notre foi, demain ça pourra le devenir. Et parfois nous avons vocation à trancher afin de gagner le royaume de Dieu. Parfois, il est également nécessaire de se dépouiller pour être vêtu. Et le plus bel exemple qui soit, c'est l'exemple du souverain sacrificateur qui, avant de rentrer dans le temple, avant d'accomplir son service, enlevait ses vieux habits et puis revêtait l'habit de la sacrificature. Et je trouve que c'est une belle image du chrétien qui, pour revêtir Christ, doit se dépouiller de ses œuvres mortes, hein, des œuvres de la chair, afin de gagner le royaume de Dieu. Noémie et Elimelech, ils ont voulu éviter de perdre. Et ils n'ont pas gagné. Alors que Ruth, et vous connaissez l'histoire, donc je peux m'avancer un petit peu, elle a quitté Moab, elle a quitté son pays, elle a quitté sa famille pour suivre sa belle-mère, elle a accepté de tout perdre, et elle va tout gagner. Elle va tout gagner. Que le Seigneur soit béni, et nous aide à être de ceux, de celles qui appliquons et qui nous faisons un point d'honneur à appliquer cette règle spirituelle, il faut être capable de perdre pour gagner. Troisième chose, et là elle est flagrante, que l'abandon des positions spirituelles va générer dans le cœur de Naomi, c'est l'amertume. Elle dira elle-même, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi, eh bien, Mara, ce qui signifie amertume. Appelez-moi amertume. Son cœur est rempli d'amertume. Quelle est l'origine? La Bible décrit bien l'origine de l'amertume. Jérémie, chapitre 2, verset 19. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. L'origine de l'amertume, elle vient de l'abandon de Dieu, de la personne de Dieu. Et l'abandon de la personne de Dieu, elle vient du manque de crainte que l'on peut avoir de sa part. Alors je le redis. La crainte dont il fait mention ici, ce n'est pas une peur panique en disant « Dieu est grand, Dieu est saint, mon Dieu, je ne peux pas m'approcher de toi. » Hein? Non, mais c'est un saint respect que l'on doit avoir de la personne de Dieu. Et l'amertume est un sentiment qui est ô combien dangereux. On le voit d'ailleurs au travers du comportement, au travers du parole de Naomi. Ses paroles sont extrêmement dures. Hein? « Comblé, j'étais parti, vide, l'Éternel me ramène. » Pourquoi m'appelez-vous Noémie, etc. Appelez-moi Mara. Ainsi revint Noémie et avec elle sa belle-fille. À un certain moment, elle va dire « L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Son cœur est rempli d'amertume et de ce fait, on peut remarquer que sa colère ne se reporte pas sur elle, sur ses choix qui ont été mauvais, mais sa colère se reporte sur Dieu. Et je me dis que Ruth a eu bien du mérite de suivre une telle femme. Sacré discernement, cette petite Ruth. Hein. Je l'imagine, alors peut-être parce que je me trompe, c'est possible, mais je l'imagine bien comme une mégère, Noémie. Un petit peu, vous savez, Tati Daniel. Je caricature. Mais c'est sa souffrance qui la faisait parler. On en est conscient. Pourtant, ses paroles vis-à-vis de Dieu sont dures. Mais Dieu ne lui en tiendra pas rigueur. Et l'amertume est un sentiment dangereux. Parce que, quelque part, il déresponsabilise. Naomi rejette la faute sur Dieu et en aucun cas envisage que le problème puisse venir d'elle. L'amertume est un sentiment qui est dangereux parce qu'il se communique. Hébreux chapitre 12, verset 15. Je vais le lire dans deux versions différentes. Version seconde, classique. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Et la version parole vivante traduit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. » Sous-entendu, l'amertume est un sentiment qui est dangereux parce qu'il est caché, premièrement parce qu'il est orienté vers Dieu, deuxièmement parce qu'il est caché, ici il est fait mention de racine dans la version Louis II. Donc, c'est un sentiment qui prend naissance dans le secret. Personne ne peut le discerner au début, mais il est en profondeur, il est là. L'origine, c'est une souffrance forte, il est là, il est latent. Si l'amertume est dans mon cœur, au début, Joie ne pourra pas le voir. Il a beau être extrêmement intelligent, avoir beaucoup de discernement, il ne pourra pas le voir. Parce que c'est latent, c'est caché. Mais simplement, c'est simplement à partir du moment où il portera du fruit et qu'il générera des actes, qu'il générera des paroles, tout comme Noémie, que là on pourra se dire « Oh, Olivier, il a le cœur amer. » Donc, finalement, nous sommes les seuls à pouvoir connaître notre cœur et savoir si le sentiment, si l'amertume est là. Et l'amertume, pour la soigner véritablement, il ne s'agit pas de soigner les apparences, de couper, mais il s'agit d'aller jusqu'aux racines et de déraciner profondément les choses, d'aller jusqu'au plus profond de nous-mêmes, de laisser le Seigneur aller jusqu'au plus profond de notre cœur, afin que ce sentiment d'amertume, afin que cette plante vénéneuse qui a été semée par la souffrance, eh bien, puisse être arrachée. Et puis l'amertume est dangereuse, troisièmement, parce qu'elle se communique. C'est un poison. Et l'apôtre qui écrit aux Hébreux, eh bien, leur dira, capable d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute une communauté. Donc, veillons sur nos cœurs. Veillons sur le cœur de notre frère, veillons sur le cœur de notre sœur. Hein. Et si jamais amertume il y a, eh bien, il sera nécessaire de la soigner. Parce qu'on s'aperçoit que même dans l'Église, eh bien, cela peut faire des ravages. Et cela peut, eh bien, faire tache d'huile, tache d'encre, et finalement freiner l'action du Saint-Esprit. Ruth était, Naomi était donc pleine d'amertume. Alors, on connaît bien cette image hein, du peuple hébreu qui va vouloir aller boire à Mara. Et quelle est la solution? Moïse, que va-t-il faire? À Mara. Comment est-ce qu'il va rendre les eaux pures? Le morceau de bois, le symbole de la croix. Hein. Et donc, le chemin reste le même. C'est la repentance. Hein. Et c'est l'œuvre de la croix où le Seigneur eh bien, a pris tous ses sentiments mauvais. Et je crois de tout mon cœur qu'il le fait encore aujourd'hui. Quatrième chose. Ruth, chapitre 1, verset 2. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses deux fils, etc. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab, et ils y vécurent. Au début, ça devait être un séjour temporaire. Ils fuyaient une situation compliquée, la famine. Et puis, là, la fin du verset nous dit « Ils y vécurent ». C'est entendu ? Le temporaire est devenu du permanent. Ce qui devait être épisodique est devenu le quotidien. les situations de notre vie peuvent nous faire dire, voilà, je prends du recul. Peuvent nous faire dire, oh, j'ai plus le temps, je suis overbooké, bref. Peuvent nous faire dire, voilà, finalement, j'ai été déçu, j'ai connu une déception, donc, voilà. Pendant quelques temps, je lève le pied. Pendant quelques temps, et c'est comme ça que l'occasionnel devient du permanent. Je lirai ma Bible demain, j'aurai mon culte personnel demain, je prierai avec ma femme demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Voilà. L'occasionnel devient le quotidien. Ils étaient partis pour un petit séjour, et finalement, ils vont s'installer. On peut partir pour des petits séjours. Et finalement, on peut s'installer. Compromis après compromis, ça peut devenir une habitude. Le plan du diable, c'est de nous enfermer dans tout cela. De nous faire être prisonniers de toutes ces situations. Alors, il y a d'autres choses, mais on les abordera pas, tant pis. En conclusion, n'oublions jamais que nos positions spirituelles doivent être indéboulonnables et qu'elles sont, premièrement, la parole de Dieu. Si je ne nourris pas mon âme, je ne peux pas rester sur les lieux élevés. Je ne peux pas quitter la maison du pain. Jamais. Jamais. Deuxième position, la louange, qui a vocation à toujours élever Dieu. Bénir Dieu. Le remettre à sa place dans nos cœurs, le remettre à sa place dans nos vies. Troisième position, le désir de porter du fruit. Oui Seigneur, je suis sauvé par grâce, amen. Mais je veux porter du fruit et je veux en porter de plus en plus. De plus en plus. Alors, si nous vivons un des états que nous avons vus dans Naomi, l'amertume, solitude, l'enfermement, dans certaines conceptions, eh bien, je pense qu'il est nécessaire de se poser la question, quelles sont les positions spirituelles que je vais délaisser? Quels sont les principes de base, eh bien, que j'ai abandonnés, afin, eh bien, de regagner et afin de reprendre de la hauteur, et que véritablement, eh bien, le nom du Seigneur soit de nouveau béni, et que je puisse regagner ma place dans la maison du pain, et être de ceux, de celles, qui remportent des victoires, non pas par procuration, mais des victoires, afin de ne pas être dans l'affliction, ni dans l'amertume. Que le Seigneur soit béni, nous allons prier. Amen.